talmudique. Rabbin Pauline Beb, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous retrouver pour poursuivre notre conversation commencée la semaine dernière. Entre-temps, une nouvelle année a commencé, une nouvelle porte s'est ouverte, offrant comme tous les ans à la fois un goût de recommencement, mais aussi de première fois, une nouvelle porte s'est ouverte avec tout son lot d'espérances, de vœux mutuels, accompagnés de gestes d'amitié qui rappellent que nous avons souvent, plus que nous pourrions le croire, le cœur au bout des doigts, pour reprendre le titre de votre dernier livre qui vient de sortir aux éditions Actes Sud, un livre dont nous avons commencé à parler la semaine dernière, un livre de méditation sur notre quotidien qui nous invite à ouvrir les yeux sur tous ces petits riens qui donnent à la vie sens et valeur, rejoignant ainsi le thème que nous avions abordé il y a 15 jours avec le grand rabbin Marc Raphaël Gedge, nouvelle année qui donne à vivre, à revivre ces premières fois que, écrivez-vous, nous aimons à repérer dans nos vies le premier pas, le premier mot, le premier baiser, la première danse, le premier amour, le premier diplôme, la première montagne escaladée, la première pierre qui nous a fait trébucher. La liste des premières fois est presque infinie. Le judaïsme est très sensible à ses commencements, à ses recommencements, à ses bereshites, sans cesse remémorés, commémorés, au point que dans l'année juive, on compte 4 nouvels ans différents, même si de manière générale, ils ne sont pas tous fêtés avec la même ampleur et le même faste. Plaisir des premières fois où l'on se dit que tout est possible à nouveau, que de nouveaux chemins peuvent s'ouvrir, que nous ne sommes pas prisonniers d'un destin définitif, mais que l'on peut tenter à chaque fois une nouvelle destinée. Première fois que la liturgie juive accompagne d'une belle bénédiction, d'une grande simplicité, mais d'une très grande portée, une bénédiction, Pauline Beb, que vous évoquez dans un chapitre intitulé « Ouvert, fermé, ouvert ». Parlez-nous de cette bénédiction, Rabbin Pauline Beb, et comment la transposez-vous dans un monde où l'on a perdu l'habitude de faire des bénédictions, mais où l'âme de chacun espère être portée par le souffle d'une profonde et juste parole qui est une façon d'ouvrir une porte du futur?
C'est une bénédiction, tout d'abord, on peut dire la bracha, qui a donné le mot baraka que l'on connaît, qui veut dire plutôt la chance, mais le mot bracha, bénédiction en hébreu, vient de berer, le genou, puisqu'il s'agissait de la génuflexion et de remercier. Et je crois que on dit souvent aux enfants, tu dois dire merci de manière un peu artificielle, mais on oublie d'être reconnaissant. On oublie d'être reconnaissant pour chaque acte quotidien de la vie. Il y a des bénédictions dans le judaïsme, y compris pour des choses très prosaïques, pour le fonctionnement de nos organes. Et je crois que c'est quelque chose de merveilleux de se dire le matin, c'est extraordinaire qu'on puisse ouvrir les yeux, de se tenir debout pour pouvoir justement la réciter, la bénédiction. Mais cette capacité, ces capacités que tout le monde n'a pas, et lorsqu'on les perd, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est en difficulté, ou dans un handicap, on se rend compte de ce qui nous manque. Et je crois que l'être humain est blasé. Lorsque un enfant grandit tout petit, 2, 3, 4 ans, on les voit s'émerveiller d'une fourmi et regarder pendant des heures les chemins qu'ils parcourent et comment fonctionne le monde des fourmilières. Et puis, on passe à côté après de toutes ces choses, on devient blasé. Et finalement, la bénédiction, elle remet du merveilleux dans nos vies. Elle remet une respiration, la capacité de se dire ben, j'ai de la chance de vivre ce moment-là. Et ça permet aussi, dans le cycle de l'année, puisque nous venons de terminer un cycle et de commencer un autre, ces bénédictions, soit celles que vous avez citées, le Shehriyanu, que l'on dit dans l'année lorsqu'on mange un fruit pour la première fois, ou lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois, ça nous permet de presque dire « autant suspend ton vol », c'est-à-dire d'être conscient et de sanctifier ce temps. Et ça, c'est une des capacités qu'a le judaïsme, mais aussi d'autres religions, finalement, de par les rites. Ces rites qui sont importants, qui nous rendent conscients, nous font lever les yeux et regarder. Il y a une histoire hassidique qui raconte qu'un étudiant courait et il arrive en retard chez son maître. Et son maître dit « Mais pourquoi tu cours-tu ? » Et il lui dit, l'étudiant répond « Mais je suis en retard. » Et le rabbin répond « Mais ne cours pas, tu as oublié de regarder le ciel. » Et très souvent, nous oublions de regarder le ciel.
Alors, vous soulignez cette chose très importante, que le premier mot qu'on prononce le matin en se levant, c'est Modéani, c'est-à-dire je te remercie de m'avoir redonné cette âme qui s'est endormie pendant la nuit. Et je souligne toujours que le mot juif en hébreu, Yehudi, vient du verbe leodot, qui veut dire remercier. C'est-à-dire que juif, c'est synonyme de merci. C'est le même mot. Alors, on vient de parler de la fascination des premières fois, mais on peut oublier l'importance, la richesse, la fécondité des dernières fois, des temps qui finissent. Et il y a, écrivez-vous, les dernières fois, celles qui nous donnent le vertige, parce qu'elles nous parlent de la fin. Elles aussi, ces dernières fois, ont besoin de rites, Pauline Bèbe.
Oui, bien sûr, elles sont beaucoup plus difficiles à repérer. Alors bien sûr, il y a la mort qui est un passage qui assomme. Et c'est toujours un moment très particulier où on a besoin de rites. Souvent, on associe cette prière qui est le Kaddish au moment de la mort. Et en réalité, le Kaddish a été inventé à l'époque talmudique par un rabbin qui a voulu conclure une session d'études. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux aussi, c'est de dire que on conclut une session d'études et donc on dit une prière. Et cette prière, finalement, qu'est-ce que c'est que le Kaddish? C'est pas une prière des morts, c'est une prière de louange. Et dans cette idée rabbinique, on souligne le fait que la naissance comme la mort ou le début comme la fin sont des moments de bénédiction. Lorsqu'on conclut quelque chose, on doit le marquer aussi, le surligner et dire c'est un moment important. Alors on le sait pour la mort, mais parfois on le sait pas pour quelqu'un à qui on dit au revoir, une relation qui se termine. Et c'est seulement après qu'on doit faire des rituels de séparation ou des rituels de deuil pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est vrai que donc ce Kaddish qui célèbre la vie, finalement, c'est un texte qui est répété dans la prière, un petit peu comme une virgule ou un point final, puisqu'il intervient dans une forme, on dit la moitié du Kaddish ou le Kaddish total. Il y a toutes sortes de Kaddish dans leur déclinaison. Et on a besoin dans la vie de virgules et de points.
Et de respiration.
Oui, et de points de suspension.
Oui, alors je pense à ce rite que vous avez esquissé à l'instant, qui est de faire un festin quand on termine un traité du Talmud. Il y a 63 traités du Talmud, alors quand on termine tout le Talmud, c'est-à-dire les 50 000 pages, on fait 63 festins, mais c'est une fête pour les jeunes étudiants qui ont la chance d'avoir terminé un traité entier. On fait ce qu'on appelle un sioum. Et je crois que c'est quelque chose qui est important dans les rituels que vous aimez souligner et enseigner, Rabbin Pauline Bèbe.
Oui, le siyum, avoir terminé une session d'études, c'est la joie. Au fond, le mot joie en hébreu, c'est simcha. Et ça, c'est la même racine, en réalité, que tsemar, la plante. On est content d'avoir planté un germe qui a fleuri, qui a poussé. Et l'étude, c'est cette construction, c'est ce tissage. Parce que on dit un apprentissage, finalement. Le texte est au milieu des étudiants, comme un tissu, et c'est l'origine du mot texte. L'apprentissage, c'est apprendre en tissant des liens. On tisse des liens avec le texte devient un prétexte au fond au dialogue. Lorsqu'on termine une macérette, un traité du Talmud, en général on est très content parce que on se bat avec le texte. Le Talmud, c'est un texte compliqué, qui n'est pas facile, c'est un texte qui était oral avant d'être écrit. On ne comprend pas toujours ce que les rabbins ont voulu dire. On s'éclaire des commentaires du Moyen-Âge, on a dans une page de Talmud des siècles de commentaires qui discutent les uns avec les autres, des personnes souvent qui se sont jamais rencontrées, un compilateur qui a mis des passages qui n'ont rien à voir, mais simplement il y avait une consonance, donc il les a mis ensemble. Donc quelque part, c'est comme une pelote de laine qui est très emmêlée et qu'on essaye de démêler petit à petit. Et donc il y a une joie quand on a fini une session, la joie du travail accompli et la joie du chemin qu'on a parcouru ensemble, avec souvent la revruta, c'est-à-dire l'ami ou les amis avec qui on a eu cette occasion d'étudier ensemble. Et finalement, l'étude, c'est grandir ensemble aussi.
Mais en même temps, vous écrivez que c'est tellement bien, on est tellement bien dans cette page de Talmud ou dans ce traité, que lorsque c'est terminé, on est triste. Et donc, on relit, vous dites, jusqu'à la table des matières pour ne pas sortir trop vite du livre.
Oui, je crois que quand on a trouvé un bon livre, c'est comme un ami qui vous accompagne, qui est là au moment où, avant de se coucher, quand qui va accompagner nos rêves. Et puis le lendemain, quand on a le temps de lire le matin aussi, finalement, dans ces moments, dans ces espaces de vie, un bon livre nous accompagne. Et c'est vrai que quand on a été passionné par une lecture, on a du mal à quitter le livre et on a envie de tout lire, de lire la table des matières, de voir si l'auteur n'a pas encore écrit un autre livre. Et finalement, c'est la tristesse d'une amitié qui s'en va. Mais on peut aussi réouvrir des pages, revenir en arrière. C'est ce qu'on fait en tout cas pour la Torah, même si le livre n'est pas sous forme d'un codex. Souvent, enfin, il peut l'être, mais c'est un parchemin. Et c'est assez drôle qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait défiler des écrans, on retrouve le parchemin. Donc le fait d'aller sur un chemin et d'avoir à dérouler, enrouler ou dérouler les textes.
Alors justement, excusez-moi de vous interrompre, mais je trouve votre remarque intéressante parce que la lecture de la Torah propose un rite important, en tout cas intéressant, celui de conjoindre le dernier et le premier, une forme de circularité infinie qui ne se referme pas sur elle-même mais qui ressemble plus à une spirale ascendante au moment même où à la fin de l'année, on lit le dernier mot du rouleau de la Torah, on le réenroule pour se retrouver au début, au Bereshit, créant par ce rite de lecture à la fois le commencement symbolique de l'année, et on crée aussi un mot de deux lettres constituées de la dernière et de la première lettre de la Torah, le Lamed du mot Israël, c'est la dernière du livre, et le Bet du mot Bereshit, et ces deux lettres, Lamed et Bet, écrivent justement le mot cœur, rite, lève en hébreu, rite magnifique. Comment l'interprétez-vous, rabbin Pauline Beb?
Alors, on pourrait dire que le cœur nous accompagne dans cette lecture. Je voudrais revenir sur le mot lève, cœur, qui est en hébreu à la fois le siège de la raison et de l'émotion. Et ça, c'est une sagesse aussi hébraïque. On a souvent voulu séparer la raison des sentiments. On a souvent voulu dire que les émotions, c'était quelque chose, des choses pas importantes, qu'il fallait balayer, qu'il fallait maîtriser, alors que la raison, c'était et l'intellect, c'était la supériorité. C'est beaucoup Platon et la pensée grecque qui nous a mené sur ce chemin, puisque Platon disait que l'âme était enfermée dans son corps, prisonnière, et qu'il fallait qu'elle puisse se libérer des choses matérielles. Et dans la pensée hébraïque, on considère que, au contraire, le cœur et le corps, hein, ou le corps et l'âme ne font qu'un, et que finalement le cœur est le siège des idées et des émotions. Et c'est quelque chose d'important parce que lorsque l'on parle de la lecture ou même d'une démarche scientifique, elle ne se départit pas de cet aspect humain qui fait qu'elle vibre comme la musique ou comme l'art. Finalement, nous sommes des êtres d'émotion et de réflexion.
Cela rejoint la préoccupation que nous avons eue dans notre conversation la semaine dernière du cœur intelligent, Lev Chacham Venavon, qui a été le cadeau le plus beau qui a été fait à Salomon. Mais je pensais que tout nouvel an devrait durer deux jours, un jour pour fêter la fin de l'année et le second pour fêter le début de la nouvelle année, avec un rituel de lecture qui nous fait retourner à la première page, ce qui provoquerait sans doute à chaque fois la même question, mais pourquoi relire le livre que l'on vient juste de terminer, rabbin Pauline Beb?
Dans un sentiment de cycle, vous l'avez dit, c'est une spirale, ce n'est pas un cercle, parce que la vision babylonienne du temps, c'était un cercle déterminé, et dans ce qu'introduit la Bible, c'est cette notion de spirale, c'est-à-dire que il y a des répétitions, il y a des rites, il y a, comme vous l'avez dit, des nouvel an, mais il y a aussi des choses nouvelles, et dans l'hébreu, se fait le témoin de cette idée qu'il n'y a pas de répétition sans changement, par le mot même année, shana, Et shana, la racine, lorsqu'on met des voyelles différentes, c'est le shanot ou lishnot, c'est-à-dire soit répéter, soit changer. Et comment la répétition et le changement peuvent être les mêmes mots? Parce que justement, lorsqu'on répète quelque chose, on ne dit jamais deux fois la même chose. Lorsque Dieu appelle Abraham, 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 le deuxième Abraham est teinté du premier Abraham. Et on sort forcément, à cause de la ligne du temps, d'une répétition. On n'est jamais deux fois le même. Et lorsqu'on relit la Torah ou lorsqu'on relit d'autres livres, ma fille a lu de nombreuses fois Harry Potter, par exemple, eh bien, je suis sûre que dans ses lectures, elle est à la fois rassurée, comme nous le sommes dans la lecture de la paracha. Nous savons quelle est la fin de l'histoire, nous savons comment ça va se terminer. Et pourtant, nous redécouvrons, même lorsqu'on connaît la Torah très bien, nous redécouvrons des choses nouvelles à chaque lecture qui font que le texte reste vivant.
Ravel, le Boléro, l'orchestre des jeunes de l'Orchestre de Galicie avec Vincente Alberola à la direction. C'est une musique qui apparaît au détour d'une des pages de votre livre, Rabbin Pauline Beb, et que vous avez souhaité entendre. Pourquoi ?
D'abord, peut-être par l'histoire de ce Boléro, commandé ou offert en 1928 à une danseuse russe, Ida Rubinstein. Donc, c'est une musique dansée, et je lorsque j'entends le Boléro, je vois toujours Georges Donne sur la chorégraphie de Maurice Béjart, qui dansait ce Boléro et qui était absolument extraordinaire, avec le rythme de la musique. Yankelevitch disait aussi que par ce Boléro, il parlait de la variété de la monotonie et qu'il avait réussi, Ravel, à rendre l'uniformité supportable, parce que la répétition et la couleur de la musique instrumentale faisait que la répétition n'était plus monotone, justement. Et ça me fait penser aussi, je crois que c'est Mandelbrot qui disait, il faut danser une fois par jour, ne serait-ce que dans la tête. Donc la danse et la musique, on revient à cette idée que le corps et le cœur doivent dialoguer ensemble et vivre la passion. Pour Ravel, c'était aussi une musique très très inspirée de l'amour, et je pense que c'est toujours important de garder ces musiques et cette danse proche de nous.
On retrouve ce que vous avez dit juste avant, cette musique, cette idée de répétition et de changement C'est-à-dire que la force de cette musique, si on prend le temps de l'écouter, parce qu'on peut se dire, on va quand même pas écouter le boléro, c'est toujours la même chose. Et pourtant, la force de Ravel, c'est dans cette pseudo apparente uniformité d'avoir introduit de la différence par la couleur orchestrale. Et c'est peut-être que ce que à quoi nous sommes tous invités, comme nous, quand nous relisons un texte, on a l'impression, comme vous l'avez dit très bien, que on le connaît, et pourtant il y a peut-être des couleurs de l'orchestre, des mots que nous n'avons pas encore saisis. Alors nous avons vu la semaine dernière à quel point l'écriture est importante pour vous, et bien que votre langue d'expression soit le français, votre écriture est aussi particulièrement fécondée par la langue hébraïque, cette langue, dites-vous, dont chaque racine ouvre des portes et des fenêtres vers des chemins sur lesquels nos esprits, nos âmes se promènent à l'infini, c'est-à-dire, je crois que c'est important de le souligner, une langue dont la richesse se trouve aussi dans son potentiel anagrammatique. Chaque racine et chaque mot se déploient en des variations où les lettres sont comme des notes de musique, justement, qui se combinent et se recombinent. Tserouf, dit l'hébreu, mot qui est lui-même l'anagramme du mot tsipor, qui signifie l'oiseau. Ainsi, le mot doigt, qui est dans le titre de votre ouvrage, le cœur au bout des doigts, le mot doigt se dit en hébreu etzbaot, un mot qui, par une lecture aux éclats, donne l'anagramme etz. Baot, c'est-à-dire un arbre dans la lettre. Comme si, en chaque lettre, il y avait un arbre avec ses racines, son tronc, ses branches, ses feuilles et ses fruits, qui attendait d'être cueilli, un arbre qui attendait de pouvoir offrir son ombre et sa fraîcheur, un arbre de vie qui s'épanouissait par nos lectures et nos interprétations. Rabbin Pauline Beb.
Oui, c'est magnifique. Le Talmud parle aussi de racines et d'ailes. Évidemment, les lettres hébraïques ont cela de très particulier que elles n'ont pas de voyelles. On invente les voyelles. On les met. Ce sont des petits points qui se baladent et que on peut mettre différemment et donc lire différemment le texte et l'interpréter. Et cela fait d'emblée du lecteur un interprète. C'est-à-dire que on ne peut pas lire sans interpréter ce qui est écrit. Alors bien sûr, il y a des habitudes et des mots qu'on lit très vite, mais évidemment, les rabbins jouent avec ces lettres. On a l'impression que chaque lettre a sa vie propre, qu'elle danse sous nos yeux et qu'elle se recompose en formant de nouveaux mots, comme vous l'avez fait à l'instant, avec les arbres qui sont dans les lettres. C'est vous-même qui parliez de cet oiseau présent dans chaque verset, reprenant l'idée d'Emmanuel Levinas, un oiseau dont les ailes sont pliées qui attend le souffle du lecteur pour déployer ses ailes. Et là aussi, au fond, expliqué en hébreu et qui a donné le mot paracha, donc la péricope de la semaine, ou les perushim d'ailleurs, aussi les pharisiens, ceux qui ont expliqué le texte. Le mot perouche, ça veut dire clair, rendre clair, mais c'est aussi déployer ses ailes et donc expliquer, savoir expliquer un texte même compliqué, c'est prendre son envol et donner la capacité à l'autre de voler également. Le texte est un tremplin au rêve, un tremplin à la discussion, un tremplin aussi pour se remettre en question et creuser, toujours creuser pour aller à l'essence du sens du texte.
Alors le mot etzbaot, c'est-à-dire précisément les doigts, nous venons d'en parler, les doigts de cette main poétique que vous nous tendez, Pauline Beb, est un mot rare et qui dans sa forme dite complète, avec la voyelle O, marquée par la lettre Vav, n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, à propos des colonnes Yachin et Boaz, placés à l'entrée du temple, dont on dit que l'épaisseur de leurs parois, il s'agissait de colonnes d'airain creuses, était de 4 doigts. Comment comprenez-vous la symbolique de ces doigts présents dans ces 2 colonnes qui forment le portique que tout homme et toute femme doivent traverser pour entrer dans le temple, ce que le Talmud commente en disant pour entrer dans le livre, et j'ajouterai aujourd'hui pour entrer dans la nouvelle année, Rabbin Pauline Beb.
Oui, c'est très beau cette image de colonnes qui ont des doigts, un peu comme des arbres. Les arbres tout à l'heure, c'est vrai qu'en regardant souvent les branches, on a l'impression que ce sont des mains tendues vers le ciel. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, ou en tout cas il en reste qu'un morceau. On peut penser que, comme les Hassidim le disaient, le temple est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il n'est pas étonnant de dire que pour construire notre personnalité et notre âme, eh bien il faut beaucoup de confiance, et puis il faut aussi du doigté, avoir le cœur au bout des doigts pour pouvoir encore une fois communiquer avec l'autre. Il y a encore une autre image qui est présente dans la construction de ce tabernacle, qui est l'image des chérubins. On dit que entre ces deux visages de ces anges, eh bien, la présence divine était là. Cela signifie que dans toute construction humaine, que ce soit un projet, une entreprise, il faut bien que les personnes qui y participent puissent se regarder et ne se considèrent pas comme des objets, comme des simples pierres, mais que ces pierres, elles puissent rire ou pleurer, mais être imprégnées de sentiments. Et ce n'est que comme cela que la construction peut perdurer.
Alors voilà une très belle symbolique, ces deux mains qui sortent des colonnes, des mains qui se serrent, ne disent-elles pas l'amitié en hébreu? Parce que le mot main en hébreu se dit yad, et quand vous avez deux mains, c'est yad, yad, main, main, qui écrivent en effet le mot yodid, qui veut dire l'ami. L'amitié, la fraternité et la paix sont des thèmes fondamentaux de votre réflexion, des relations humaines qui passent par la parole. Vous citez Yehuda Amichai, ce très grand poète israélien qui écrit « Nous avons partagé la langue entre nous, toi les voyelles et moi les consonnes, pour former une seule et même langue » et beaucoup d'autres choses. Tout cela, j'ai l'impression, passe aussi par des rites liturgiques présents dans chaque religion, et dans les rites laïques, que parfois l'on ne perçoit même plus. Quels gestes, quels sont ces petits gestes du quotidien qui vous sont si chers, Rabbin Pauline Beb?
Des gestes, il peut y en avoir beaucoup, bien sûr, mais ces gestes doivent exprimer justement cette yodidoute, ces deux mains qui me font penser aussi aux mains sculptées par Auguste Rodin, ces mains qui s'effleurent sans se toucher, qui gardent justement cet espace, qui ne vont pas rester trop collées l'une à l'autre, mais qui permettent l'espace de la réflexion et de l'être séparé, tout comme de l'être ensemble, puisque la sculpture, c'est la circulation entre ces deux mains. Alors, tout peut devenir ritualisé. C'est vrai que lorsque on a une tradition, on peut s'y plonger. Je pense que chacun a la sienne. Ça peut être des traditions religieuses, mais comme vous l'avez dit, des traditions laïques, comme par exemple regarder le concert du Nouvel An ou écouter des musiques. Ce sont des anniversaires et ce sont des choses qui nous rassurent. Les rites nous permettent de prendre le temps de l'instant, de l'espace d'un moment, de s'arrêter. Et nous sommes dans un tourbillon. Il est important de savoir s'arrêter, de savoir prendre un café. Je suis souvent frappée par le temps qui n'est pas pris dans le monde du travail. Et quelquefois, c'est juste une conversation autour de la machine à café qui fait que on va comprendre comment fonctionne une partie de notre travail. On va échanger plutôt que de s'écrire un mail, parce que finalement, on multiplie les écrans devant nous. Ce temps de dialogue, il peut résoudre beaucoup de problèmes beaucoup plus facilement, souvent, que de passer par des écrans. Donc, prendre le temps, peut-être, c'est le rite le plus important.
Alors, on a beaucoup parlé dans ces deux émissions, on a beaucoup parlé de mots, de paroles, de commentaires, de lectures. Il y a dans votre livre quelque chose qui est à l'inverse, que vous soulignez beaucoup et qui a toute son importance, c'est le silence. C'est un livre aussi sur le silence. Quelle place a le silence dans ses préoccupations? Et vous venez peut-être de l'évoquer, c'est peut-être prendre le temps, mais comment vous donnez cette place au silence, Rabbin Pauline Beb?
Le silence donne tout son relief aux mots. Dans le parchemin de la Torah, on dit qu'il y a des mystères incroyables. Le premier mystère, ce sont les lettres. Le deuxième mystère, c'est les signes de chant qui sont apposés sur les lettres par les massorètes, c'est-à-dire ces rabbins qui ont mis le texte en musique. Mais le plus grand de tous les mystères, c'est l'espace entre les mots et les lettres. Et dans ces espaces, il peut se passer des choses absolument incroyables, comme dans le silence entre deux amants ou deux amis. Ces silences sont tellement importants parce que lorsqu'il y a trop de mots, lorsqu'on parle trop, le mot n'a plus de sens. Donc les silences, ils sont essentiels à la musique. Je me rappelle de John Cage qui disait que le silence, on avait composé avec de la musique et du silence, et lui a composé une œuvre uniquement de silence. On a aussi ce verset qui dit le silence pour toi est une louange en parlant à Dieu, parce que tout simplement, peut-être au plus profond de nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer, et c'est là que le silence a toute sa place.
Merci Rabbin Pauline Beb pour toute cette poésie et ces réflexions riches, profondes et vivantes qui nous ouvrent les portes de la nouvelle année dans cette lumière de l'amitié et des mains qui se rencontrent pour créer et recréer le monde, dans la douceur des mots qui rappellent à chacun qu'il est aimé et que le dire n'appartient pas à un romantisme suranné. Merci pour votre très beau livre paru chez Actes Sud et dont je rappelle le titre « Le cœur au bout des doigts », un livre qui invite à la lecture, l'étude, la méditation et à l'action. Un livre qui fait naître dans la rencontre le sourire, le désir d'être cette âme qui s'améliore, dont parle si joliment Materlinck. Merci encore Rabbin Pauline Beb.
Merci à vous.
Permettez-moi, chers auditeurs, au nom de Françoise-Anne Ménager et de toute l'équipe de Talmudic, de vous souhaiter à nouveau, à toutes et à tous, une bonne et nouvelle année de santé, de réussite, de paix, de joie, d'amour et d'humour, accompagnée de belles lectures et de belles rencontres. C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Célia Dufour, à la réalisation, comme d'habitude, d'Annie Journaud. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudic. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous, bonne année et à la semaine prochaine. Thank you.